On va en fait, voilà, vous avez le titre en fait qui a été proposé, et dire que je pensais au suicide. Et puis il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose lorsqu'on est assailli par des pensées de suicide, lorsque c'est difficile, lorsqu'on ne voit plus le bout du tunnel? Est-ce qu'il peut vraiment se passer quelque chose? Alors c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet qui va nous toucher, et je vais dire qui va nous toucher pratiquement tous. Parce que soit que nous ayons nous-mêmes été assaillis par des pensées de suicide, ou peut-être encore actuellement on est en lutte avec ce genre de pensées, ou bien ça nous a touchés de près parce que un ami, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de proche, est passé par là, et ça nous a laissé aussi extrêmement meurtris. Alors, c'est un sujet tellement important que dans ce monde, il y a énormément d'activités qui sont proposées, disons. Il y en a quelques-unes que peut-être que vous allez reconnaître. Le suicide n'est pas une option, stop au suicide, prévention suicide, pas mal de choses qui sont faites dans le monde entier. Et je me rappelle, début de cette année, lors de la semaine de prévention contre le suicide, nous étions dans le centre de Namur, et puis nous distribuions des CD avec un message d'espoir, un message de restauration. Et là, les langues se délient, et puis nous étions surpris des commentaires et des feedbacks que nous recevions de la part des gens. Ou quelque part, généralement, vous savez, quand on distribue quelque chose en ville, les gens vous regardent même pas. Hein. On est assailli de publicité, tellement de choses. Et là, le thème du suicide, les gens s'arrêtent. Déjà, première surprise. Et puis, ils ne veulent pas prendre le CD. Ils veulent en prendre deux, trois. Parce que, ah oui, moi, j'ai justement mon ami cette semaine qui me parlait de ça. Ça ne va pas. Je vais en prendre un pour lui. Moi j'ai justement une amie qui est passée par là. Maintenant, c'est trop tard. Et je veux plus que ça arrive. Et on se rend compte combien les gens sont touchés par ce phénomène. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi l'Église va parler du suicide? Eh bien, je suis convaincu que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez organisé, vous ici membre de la communauté, cette réunion spéciale, l'Église a un message d'espoir à offrir. L'Église n'est pas seulement là pour faire des sermons, seulement là pour faire des exercices religieux, mais pour offrir un espoir. Un espoir à des gens qui vivent de vraies épreuves, qui connaissent un vrai désespoir, et leur offrir un vrai Dieu. Un vrai Dieu avec un vrai message d'espoir et de consolation. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Découvrir que quand il n'y a plus de solution, il y a encore une solution. Que notre vie, que ta vie, elle compte. Elle compte pour Dieu, que tu n'es pas un accident. Que Dieu peut faire cesser cette douleur en toi, et qu'il a la capacité de te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Tu es important pour Dieu. Alors, je pourrais vous partager des témoignages extraordinaires. J'ai quand même choisi de vous en présenter un. On va voir une petite vidéo ensemble. Le témoignage de quelqu'un, un témoignage qui va nous révéler que dans notre époque moderne, notre époque difficile, notre époque cartésienne, eh bien, la foi chrétienne, elle fait une différence. Alors, je vous invite, on va d'abord regarder cette vidéo. Mettez votre filtre canadien. D'accord? Donc, c'est un français québécois. Donc, mettez votre filtre canadien et on va regarder ça ensemble. 4 minutes.
Mon nom est Serge Cusson et voici mon histoire. Je suis le plus jeune d'une famille de 4 enfants. On est deux filles. Dès mon jeune âge, je suis complexé. Je suis une personne complexée parce que je suis très, très petit. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à consommer de la marijuana. À l'âge de 16 ans, j'ai lâché l'école pour me consacrer à la boxe. Jusqu'à là, la drogue nuit pas trop à ma carrière. Jusqu'au jour où que je retourne pro. de tournée professionnelle, et puis la drogue prend toujours de plus en plus de place dans ma vie. Après plusieurs séjours en prison, plusieurs combats qui sont pas aussi bien terminés comme j'aurais voulu, à un moment donné, je voulais mourir, je voulais vraiment finir avec la vie, parce que à chaque jour que je faisais quoi de bien, je finissais toujours par démolir qu'est-ce que j'avais construit. J'étais peureux, moi, la manière que j'essayais de me suicider, c'était par des injections de cocaïne. Ça veut dire que je me gardais une grosse bâche pour la fin. Je me disais que dans mes shoots, c'était pour être le bon. J'ai jamais été capable. Soit ma seringue a bloqué, la coke a dilué plus bien. Il y avait quoi de plus grand pour moi? Dans ce temps-là, j'avais une copine, son frère était chrétien. Et puis, lui priait pour moi, puis il priait, puis sa prière a porté du fruit à un moment donné. Il est venu me sortir quand un coup j'étais dans un de mes bas-fonds incroyables. Je voulais mourir, puis là, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, il faut que tu viennes me chercher là, pas demain, là, parce que là, je suis pas en contrôle, puis je sais pas ce que je vais faire. Puis si tu viens me chercher tout de suite, mais là, on pourrait s'arranger. Puis lui, il m'avait parlé d'une place qui était Diffusionnef Team Challenge. Quand j'étais à Diffusionnef, Dieu a commencé à mettre ses fondements chrétiens en moi. Il m'a appris à prier, m'a appris à développer une relation avec lui. J'ai vécu un deuil depuis que je suis devenu chrétien. Mon frère, qui était mon idole, qui était mon héros, qui avait été un second père pour moi, c'était vraiment mon modèle. C'est mon frère Mario Cusson. Puis il s'est enlevé la vie une couple de mois après mon mariage. J'ai été dévasté. Il a choisi de mettre fin à ses jours de façon dramatique. Moi, je pourrais essayer de vous expliquer qu'avec Dieu, j'ai passé au travers. Oui, c'est avec Dieu que j'ai passé au travers. Mais comment est-ce qu'il a fait? Je peux pas vous le dire. C'est son amour par sa grâce que j'ai été gardé. Les dommages collatéraux qu'un suicide fait, c'est incroyable. C'est catastrophique dans une vie. Moi, en tant que personne qui a déjà essayé de se suicider, qui pensait que la vie ne méritait pas d'être vécue, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une femme. Le plus bel espoir pour moi, le plus beau moment, c'est les moments de la vie. C'est chaque jour que Dieu me donne en plus, c'est une journée de plus. Aujourd'hui, je veux vivre. Aujourd'hui, je veux vivre heureux, je veux vieillir avec ma femme. Je veux voir ma fille se marier, je veux voir ma fille graduer à l'école. C'est vraiment ça, le plus beau cadeau que j'ai. Aujourd'hui, c'est la vie, là. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, là, à Dieu pour ça, puis de m'avoir gardé. J'ai essayé de m'enlever la vie, puis aujourd'hui, je veux plus mourir. Mon nom est Serge Cusson, et c'était mon histoire.
Quel témoignage bouleversant, quelqu'un qui a en fait vécu les deux formes de suicide. Et avec Dieu, il nous dit, avec Dieu, je suis passé au travers. Comment il a fait, je ne peux pas vous dire. C'est son amour, par sa grâce que j'ai été porté. J'ai essayé de m'enlever la vie, aujourd'hui je ne veux plus mourir, le cadeau, c'est la vie. Et cette vidéo, quelque part, elle est pleine d'espoir, mais elle nous rappelle aussi le désespoir de ceux qui veulent attenter à leur vie. Et la souffrance immense de ceux qui restent, qui sont hantés par cette idée de ne pas avoir compris ce qui se passait. Alors, on est face à un terrible drame humain. Et il y a quelque temps, Il y a une enquête qui a été réalisée. Une enquête qui a été réalisée par Le Soir, le journal Le Soir et les mutualités socialistes. Et dans cette enquête, on expliquait, on voit ici deux extraits, tous les jours en Wallonie, donc chez nous en Wallonie, deux personnes s'enlèvent la vie tous les jours. Un Belge sur 10 a déjà pensé sérieusement au suicide. Un Belge sur 10 souffre d'un mal profond et permanent. Et on est au-dessus de la moyenne mondiale. Donc vous imaginez, dans votre voisinage, toutes les maisons qui se trouvent alentour de vous, 4-5 maisons, eh bien il y a au moins, il y a une personne parmi toutes celles-là qui est en train de penser au suicide. C'est la première cause de mortalité pour les 25-35 ans, et contrairement à ce qu'on à l'idée reçue, ça augmente avec l'âge. Le philosophe Pascal disait « L'homme désire être heureux même lorsqu'il se pend. » Nous lisons dans la Bible, dans le Deutéronome, on le lit ensemble, Dieu qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Proclamer la vie et nous opposer à la mort. » Ça, c'est notre message. Il y a un remède au suicide. Le suicide n'est pas une fatalité. Le suicide, c'est un choix, et Dieu dit, choisis la vie. Choisis le prince de la vie, non à la mort, non à l'esprit de mort. Tu es fait pour être heureux. Tu es fait pour recevoir la vie éternelle. Alors je ne vais pas vous poser la question, qui a déjà pensé au suicide? Ne me répondez pas si je vous demande qui a déjà tenté de suicider. La Bible nous donne beaucoup de causes du suicide. Elle en parle pas mal, et les raisons pour lesquelles les gens arrivent au désespoir. Vous connaissez peut-être un personnage de la Bible qui s'appelle Job, et on va lire juste un passage ensemble qui nous donne une des causes. Job nous dit, périsse le jour où je suis né. Donc Job, c'est un homme pieux. Hein, c'est un homme pieux, et il souhaite la mort. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Job, il vit un moment de souffrance, un moment d'incompréhension face à l'adversité, un moment d'incompréhension face à la solitude, et ça provoque en lui le désir de mourir. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, un croyant peut aussi vivre des situations tellement difficiles que les pensées suicidaires essayent d'hanter son esprit. Alors, il n'y a pas que ces causes-là, la solitude, l'adversité, la souffrance, il y a aussi les mauvais choix, les dépendances, le rejet, la honte, le regret, l'épuisement, un drame qui nous arrive, la culpabilité. Mais alors, je me pose la question, comment se fait-il? Comment ces causes peuvent avoir un effet si puissant, si oppressant, à un point que ça nous emmène, pour certains, au suicide? Alors je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que nous avons un ennemi, méconnu, mais cruel, qui tire toutes les ficelles. Invisible, mais la plus puissante force qui fait concourir toutes ces causes que nous avons vues ensemble, qu'elles soient physiologiques, sociales, psychologiques, il va faire concourir toutes ces choses à notre perte. un prédicateur que j'aime beaucoup disait en parlant du suicide, le suicide avec un S, non pas comme solution, mais S comme Satan. C'est lui qui va utiliser les faits réels dans nos vies, hein, non pas les choses imaginaires, les situations difficiles, qui va utiliser les faits et nous manipuler pour me faire croire qu'il n'y a plus de solution. C'est le voleur de la vie. Et d'ailleurs, Jésus en parle, on le lit ensemble, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, dit le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu a créé et Dieu aime la vie. Dieu nous dit, choisis la vie. Tout ce qui a la vie et tout ce qui est menacé par cet ennemi. Satan, la plus grande menace pour les vivants. Ses plans, eh bien, c'est simple, détruire l'homme et le conduire à la mort, toujours. Par contre, Dieu veut que je vive. Dieu veut que je choisisse la vie. Et Dieu ne veut pas que je porte atteinte à ma vie. Ça fait partie de ses plans à lui. Alors, je voudrais voir avec vous une histoire de la parole de Dieu, une histoire qui vous doutez va parler de suicide. D'un suicide ou d'une tentative de suicide, on va analyser ce texte ensemble et retirer sept principes qui vont nous aider à comprendre certaines choses. Alors on prend ce passage ensemble dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 22 jusqu'au verset 36. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, on va suivre ensemble à l'écran, voilà. C'est très pratique. Vous êtes toujours avec moi? Oui, on y va? Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc c'est l'histoire de deux amis, deux gars qui s'appellent Paul et Silas. Ils sont en mission spéciale dans la Macédoine, une certaine contrée, et puis ils annoncent quelque part un message d'espoir. Ils expliquent en fait qui est Jésus. Et ça ne plaît pas, ça produit du remue-ménage, et puis on n'est pas d'accord avec leur idéologie. On les prend et on les met en prison. Voilà, c'est le contexte. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, maintenant donc, sortez et allez en paix. Sept principes que nous allons tirer de ce passage. Le premier principe, la situation n'est pas aussi noire que ce qu'on croit, que ce que l'ennemi voudrait nous faire croire. Le geôlier, il est investi dans son boulot. Et ce qui lui arrive, c'est un drame. C'est un drame parce que il va perdre son boulot. C'est comme ça à l'époque. Il est responsable de la vie des prisonniers. Et donc, il va perdre son boulot, mais bien plus, il va sans doute aussi perdre la vie. Et perdre la vie via la torture. Et donc, c'est un drame pour cet homme. Je me suis investi à fond dans mon boulot. Je me suis investi à fond dans mon mariage. Je me suis investi à fond dans ma famille. Et puis il y a un drame qui arrive. Quelque chose où on n'a pas de contrôle. On perd le contrôle. On a le sentiment qu'on va tout perdre. Que mourir, c'est encore la moins pire des solutions. Et on est comme face à un mur. Et Paul va crier, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Il pensait que les prisonniers s'étaient enfouis. C'est une manière de dire, stop, la situation n'est pas celle que tu crois. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, on le lit, j'estime qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les souffrances passagères de l'immédiat et la joie à venir qui nous sera révélée et que nous découvrirons plus tard. C'est pourquoi nous gardons espoir. Et nous pouvons avoir confiance pour ce que nous ne voyons pas encore. C'est pourquoi nous acceptons d'attendre et choisissons de persévérer. Refuser de se limiter à l'immédiat. Ce verset nous dit que si nous avons les yeux sur ce qui va arriver, eh bien sur ce qui est préparé pour nous d'avance, eh bien ça va nous aider à accepter ce que nous traversons. C'est parce que nous avons cette conviction que les bonnes choses dans l'avenir sont bien plus grandes que les épreuves actuelles. La foi chrétienne, eh bien, elle nous permet de voir plus loin que ce que l'on vit. Alors on est pris par l'immédiat, bien souvent. L'aveuglement de ce qu'on vit. Et Dieu nous dit, eh bien, de l'autre côté de ça, eh bien, moi, j'ai préparé quelque chose. De l'autre côté du divorce, il y a la vie. De l'autre côté de la faillite professionnelle, eh bien, il y a encore la vie. De l'autre côté de l'échec amoureux, où tu as tout donné, eh bien, il y a encore la vie. De l'autre côté de l'échec scolaire, il y a encore la vie. Devant des choses graves, eh bien, Dieu nous dit, je te donne un défi, refusez de laisser l'immédiat devenir pour toi tout ce qui existe. Il y a une vie après ça, si tu peux seulement persévérer. Un pasteur expliquait, dans son église, un dimanche matin, une jeune fille de 17 ans est venue pour la première fois, et elle est venue se mettre au premier rang. Et elle était venue à l'église pour mourir. Alors, au premier rang, il y a une jeune fille de 17 ans, je crois. Hein? J'espère que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est une très bonne chose de venir à l'église. Ah non, pour mourir, elle avait pris toute une série de médicaments. Et puis elle s'était assise. Et ce qui devait arriver, arriva. En plein sermon, en plein moment. Eh bien, elle est tombée, et puis on s'est affairé autour d'elle, on lui a donné les premiers soins, on a appelé les urgences, et puis on l'a emmenée à l'hôpital. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, parce qu'elle n'est pas décédée suite à la prise de médicaments, dans les semaines et les mois qui ont suivi, avec un courage hallucinant, avec l'aide de Dieu, les bras de Dieu, l'espoir, un entourage autour d'elle, avec la foi, eh bien, cette jeune fille a commencé à rebâtir sa vie. À rebâtir sa vie. Parce que ce qu'elle vivait, c'est une jeune fille qui avait vécu, j'ai oublié de vous le dire, des choses terribles. Des choses terribles comme on peut maintenant entendre de plus en plus couramment à la radio, à la télé. Des choses terribles pour une jeune fille. Elle avait vécu des... Mais l'immédiat n'était pas la fin. C'était terrible ce qu'elle avait vécu, mais ce n'était pas la fin. Nous pouvons décider de ne pas laisser ce que nous avons vécu décider. Mais de l'autre côté de tout ça, eh bien, il y a une vie que Dieu a préparée. Amen. Ce n'est pas parce que tout s'écroule que tout est fini. Et on en vient au deuxième point. Même quand il n'y a pas de solution, il y a encore une solution. Alors le troisième point qu'on peut tirer de ce passage, c'est que Dieu refuse que tu en finisses. Paul, à un certain moment, lorsqu'il entrevoit le geôlier qui a tiré son épée et qui va en fait se jeter dessus, Paul, vous vous rappelez, Paul lui dit « Arrête, ne te fais pas de mal ». Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on peut lire « C'est l'Éternel qui donne et qui reprend la vie ». La Bible nous enseigne que la vie de chaque être humain, eh bien, elle est égale en beauté, en valeur, et elle est égale en importance devant lui. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit notre naissance, notre vie, ce qu'on a commis, quel que soit notre entourage, chaque être humain est précieux et est beau devant le Seigneur. Et Dieu, non le moindre, Dieu a un plan pour ta vie qu'il veut te faire découvrir. Amen. Dieu, c'est pas une force impersonnelle, mais c'est notre Créateur, mais il a un plan pour ma vie. Il a un plan pour moi. Je suis pas un accident. Je suis aimé de Dieu. Et je suis désiré par Dieu. Et il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Il s'est engagé vers moi. Il m'aime, il veut mon bien. Et c'est lui qui vient au secours de nos faiblesses. C'est un Dieu qui est proche de nous. Dans les psaumes, on peut lire, quand je n'étais qu'une masse informe, eh bien, tes yeux me voyaient. Le verset suivant. Lorsque j'ai été fait en secret, mon corps n'était pas caché devant toi. Avant même que je n'existe, tous les jours de ma vie étaient inscrits devant toi et je te reconnais bien. Je te célèbre, Seigneur, car je suis une créature merveilleuse. Amen. Tu n'es pas un accident. Que tes parents t'aient désiré ou pas. Que tu aies été abandonné, rejeté, avant même que tu naisses, Dieu te connaissait. Et ça, c'est important à réaliser. Quatrième point, la solution, elle est spirituelle. Lorsqu'on connaît les principes de Dieu, eh bien, ça change notre perception de la vie. Un chrétien, eh bien, il vit à chaque jour avec une pensée de possibilité de nouveau départ. Que ce qui est mort, eh bien, peut ressusciter, quel que soit ce qui s'est passé. Est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça change quelque chose dans notre vie. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on est enseigné, et avec l'aide de Dieu, eh bien, on devient capable de pardonner aux autres, de se pardonner soi-même, parce que c'est qu'on sait qu'on a été pardonné par Dieu. Et si la Bible est notre manuel de vie, si la Bible est ton manuel de vie, eh bien, tu marches avec cette conviction que la mort, et ce n'est pas la fin. C'est différent de « Ah, je souffre, je vais arrêter de vivre et comme ça sera fini. » On entend souvent les témoignages des gens qui ont tenté à leur vie dire « Rien n'avait plus aucun sens pour moi. » Mais quand on est au contact de Dieu, du prince de la vie, eh bien, on a envie de vivre. Amen. Et on voit que le geôlier, et c'est le cinquième point, il a osé faire différemment. Il a fait des choses un peu folles. Vraisemblablement, dans son règlement, lorsqu'il a suivi sa formation, ou il a eu cet emploi de geôlier, eh bien, on lui avait enseigné interdiction d'aller boire un verre avec les prisonniers, même les sympathiques. Interdiction de les emmener chez soi pour jouer aux cartes ensemble. C'était sans doute dans son manuel, interdiction d'aller s'amuser toute la nuit avec eux. Et puis au verset 33, on a lu, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille. Il fait ce qu'il n'aurait jamais pensé faire un jour. Et c'est une question que je voudrais aussi te poser. Et toi, est-ce que tu serais prêt d'oser la foi? Est-ce que tu serais prêt d'oser démarrer quelque chose de différent? Oser démarrer la foi, comme des milliers de personnes, s'attacher à une religion, mais démarrer une relation avec Dieu. Oser la foi. Sixième principe, il faut savoir que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui sont prêts à se priver pour te sauver, pour te donner un espoir. On voit dans ce passage que Paul et Silas, eh bien, ne se sont pas enfuis, même au petit matin. Ils ne se sont pas enfuis, ils sont restés là. Sinon, s'ils s'étaient enfuis, ils auraient mis la vie du geôlier en prison, en péril. Et Paul et Silas, eh bien, ils sont l'image de l'Église, ils sont l'image de la famille de Dieu. Les psys nous disent, l'isolement est une cause qui amplifie les pensées suicidaires. Alors l'Église, elle n'est pas parfaite. On n'est pas parfait. Mais on est là pour l'autre. On est là pour l'autre. Et tu trouveras dans l'Église des gens qui vont prier pour toi. Il y a une actrice de cinéma qui a prêté sa voix pour une campagne publicitaire, hein, et qui rappelle le besoin intérieur d'une communauté. Alors, on le lit ensemble. Je crois que je vous l'ai mis. Oui. Trois personnes s'enlèvent la vie tous les jours. 50% de la population connaît quelqu'un qui s'enlève la vie. Ça fait beaucoup de gens qui sont touchés. Peut-être que ça changerait quelque chose en créant une communauté qui ose dire aux autres « Tu es important pour nous ». Peut-être que la personne qui souffre oserait dire « J'ai mal ». Parle parce que tu es important. Et cet endroit, c'était cette communauté espérée, cette communauté dont elle fait référence, eh bien elle a un nom. C'est l'Église du Seigneur. C'est ce que Dieu nous a appelés à être et à faire sur cette terre. C'est le rêve de Dieu. Et si on n'y arrive pas toujours, eh bien Dieu nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Amen. Et dernier principe qu'on peut tirer de cet épisode du geôlier de la ville de Philippe, Dieu amène toujours la solution. La solution. Alors je ne voudrais pas terminer sans faire une parenthèse, une remarque. Nous avons lu au verset 34, les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille. C'est une joie quand on s'en sort. C'est une joie extraordinaire quand les pensées de mort sont vaincues. Quand on est délivré de ce qui nous accablait et ce qui nous conduisait vers le gouffre. C'est une joie incroyable. Malheureusement, quand ce n'est pas le cas, eh bien on laisse un parent, on laisse une épouse, on laisse un mari, on laisse un proche. Et là, c'est la terrible prison du chagrin. La culpabilité de ne pas avoir compris. Les regrets sans fin et le deuil qui ne se fait pas. Et là, je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'il y a un Dieu au ciel qui console les cœurs brisés et qui a prévu aussi un après. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le témoignage de Monique Lipine. Monique Lipine, ses coordonnées apparaissent à l'écran si vous voulez avoir plus de détails. Eh bien, elle est infirmière. Elle a été mariée à un homme violent et ça a laissé des traces dans sa famille. Et un jour, alors qu'elle quittait son travail d'infirmière, elle était en voiture et puis elle se dirigeait vers la réunion de prière. Et puis bien là, certainement à la radio, elle a entendu parler d'une terrible nouvelle. Un jeune homme était entré dans une école et puis avait abattu des filles, des élèves, et puis s'était donné la mort. Et elle est arrivée à la réunion de prière et puis elle a eu à cœur et elle en a fait un sujet de prière, de prier pour la famille de ce jeune homme. Quel drame terrible, quel drame terrible. Alors ils ont prié, elle a prié pour la maman de ce gars. Et puis la réunion s'est terminée et puis elle est rentrée chez elle. Et puis là, le téléphone a sonné ou la porte d'entrée, je ne me souviens plus. Et puis là, la police était là. Pour apprendre que son fils de 25 ans venait d'abattre 14 jeunes filles et puis s'était tiré une balle. Quelque temps plus tard, eh bien, la sœur, sa fille, n'ayant pas supporté ce qui s'était passé, eh bien, décédée aussi d'une overdose. Et Monique Lépine nous donne son ressenti et son vécu. Elle nous dit, j'allais mourir de chagrin. J'étais pourchassé par les médias. Je m'enlisais dans un trou noir de douleur, dans un trou noir de honte, de dépression. La souffrance était tellement forte que je n'arrivais même pas à pouvoir l'exprimer. Je me sentais mourir. Elle disait, j'étais devant un choix, celui de vivre ou celui de mourir. Mais elle disait, si c'est pour vivre, eh bien je veux que ma vie soit utile. Et elle expliquait que chaque soir, elle se réfugiait en Dieu. Chaque matin, elle allait chercher juste pour sa journée toutes les ressources dont elle avait besoin dans la parole de Dieu. Et Dieu commençait à la restaurer. Et elle a appris petit à petit de nouveau à respirer. Elle a appris de nouveau à dormir. Elle a appris petit à petit de nouveau à parler. Et puis elle a sourire. Elle nous disait, elle nous livrait dans son témoignage, quelle que soit l'épreuve qu'on vit, on a droit à une seconde chance. Quand des gens me disent qu'ils veulent se suicider, je leur dis, ce n'est pas la bonne solution. Alors on va conclure. On a peut-être tous connu autour de nous des gens qui avaient l'air d'aller bien. Et puis, subitement, on apprend, ils se sont enlevés la vie. Des gens qui avaient même atteint leur but. Des gens qui avaient même atteint leurs objectifs. Les objectifs qu'ils s'étaient fixés dans la vie. Et puis on se dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Pas lui. Pas lui. Philosophe Pascal nous dit, Pascal Blaise, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Partout, il y a des gens qui recherchent ce que seul Dieu peut donner. Et on a le cri d'une génération qui cherche quelqu'un qui est plus grand qu'eux et qui va les porter, qui va les consoler, qui va les soutenir. Et déjà, il y a 3000 ans d'ici, David, le roi David nous disait, on le lit, les pièges de la mort m'avaient enveloppé. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi. Et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi je marcherai encore sous le regard de l'Éternel, au pays des vivants. Je disais, je suis trop malheureux, je m'adresserai à l'Éternel lui-même, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Ô oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Louez tous l'Éternel. Nous croyons. Nous croyons parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui nous aime, qui agit et qui entend la prière. Nous croyons qu'il y a une intervention de Dieu qui va rejoindre la volonté humaine, qui va nous rendre capables de pouvoir faire ce que nous n'aurions jamais pu faire sans lui. Nous avons besoin de reconnaître notre besoin de Dieu. La décision qui change tout. David continue, c'est assez. Pourquoi continues-tu à t'enfoncer, mon âme? Dieu me relèvera. Il m'a sorti de l'emprise de la tombe. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu veux faire de ces prières ta prière ce soir? Est-ce que tu veux que ce soit ta prière ce soir? Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Si tu pouvais imaginer ce que Dieu a pour toi, ce qui est possible pour toi. Et la réponse de Dieu, eh bien, elle ne se fait pas attendre. Toujours dans les psaumes, Dieu est attentif et son cœur est tourné vers nous. Il se penche du haut des cieux pour écouter les soupirs du prisonnier et pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Quelle que soit ta perte, quel que soit ce qui t'a été arraché, ce qui t'a été dérobé, il existe un Dieu qui rebâtit. Il existe un Dieu qui restaure. Amen. Alors, je voudrais te dire ce soir, ose la foi. Ose la foi. La foi fait une différence dans la vie. Ose la foi pour le miracle. Ose la prière. Refuse de faire la volonté de l'ennemi, la volonté du diable. Refuse ses propositions de mort. Mais décide d'affronter la vie, de tout régler et puis de vivre. Amen. Lors d'une vente aux enchères, à un certain moment, on a pris un violon et on a proposé un violon aux enchères. Et puis, celui qui s'occupe de ça, eh bien, a fait sonner le violon. Puis c'était une catastrophe. Très mauvais. Ça vibrait partout, c'était très... Et puis il a commencé 1 euro. Puis ça a monté 2 euros, 3 euros. Et puis il y a un vieux monsieur du fond de la salle qui s'est levé, qui s'est avancé. Et puis il a demandé s'il pouvait prendre le violon. Alors il a juste réglé. Il a arrangé certaines petites choses, et puis il a commencé à jouer. Et l'auditoire était subjugué, sous charme, impressionné. Et puis évidemment, il a été applaudi chaleureusement, et puis il a rendu le violon. Et celui qui s'occupait des enchères, pour le violon, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Qu'est-ce qui s'était passé? Le toucher du maître. Alors je voudrais te dire ce soir, si ta vie elle ressemble à ce violon, si ta vie elle sonne plus, si la mélodie qui en sort c'est plus du tout ça, ça grince de partout, il y a plus cette belle mélodie qui sort, qui d'abord toi te fait du bien, mais fait du bien aussi à ceux qui sont autour de toi. Si tu as cette impression que dans ta famille, eh bien plus tu fais, plus tu détruis, que il y a quelque chose qui ne sonne plus juste. Laisse le maître venir arranger ton violon. Laisse le maître venir, laisse Jésus venir toucher ton cœur. Laisse le Seigneur venir, eh bien, s'occuper de ta vie, s'occuper de ton cœur. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Nous avons dit au départ pour commencer qu'il est bon se retrouver un vendredi soir dans la maison du Seigneur pour nous laisser nous restaurer, pour laisser Dieu, eh bien, nous fortifier, nous consoler. Est-ce que ce soir, eh bien, tu vas oser la foi? Est-ce que tu veux faire ce pas en avant ce soir? Est-ce que tu veux dire, eh bien, moi je vais oser la foi. Je vais laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie. Je veux demander à Dieu de réparer mon cœur. Je veux demander à Dieu de réparer toutes choses. J'ai besoin que Dieu vienne chasser ces pensées de mort qui m'assaillent. J'ai besoin que Dieu vienne me délivrer de ça. Béni soit Dieu pour tous les moyens que nous avons actuellement. Les médecins, les psychologues qui nous aident et qui nous aident à aller de l'avant, de voir plus clair. Il arrive des moments où on est tellement oppressé par certaines choses que il n'y a plus de solution. Il reste la solution. Et la solution, elle est spirituelle. Est-ce que tu veux, je te propose d'avancer ce soir pour que nous puissions prier ensemble. Faire cette démarche de foi. Voilà, j'ose la foi. Je m'avance, c'est bien. C'est une démarche de foi que je fais vis-à-vis de Dieu. Seigneur, je viens auprès de toi et je viens te demander que tu viennes me toucher. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de recommencer quelque chose de neuf. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Peut-être que toi simplement, bien, tu as été affecté par de terribles nouvelles. Tu as été affecté par certaines choses. Et tu as besoin que le Seigneur vienne mettre un baume dans ton cœur. Vienne te consoler. Vienne t'aider, te relever. Je t'invite à venir me rejoindre et on va prier ensemble. Pendant que l'Église prie, on va prier ensemble. La foi, elle fait une différence dans la vie. Seigneur Jésus. Oui. Thank you.
puissance et gloire pour son famille, Seigneur.
Je remets ce que je suis pour toi, Seigneur. Tiens ma vie dans le fin de tes mains. Je suis à toi pour toujours. Je remets ce que je suis pour te bénir. Tiens ma vie dans le creux de ta main. Je suis à toi pour toujours.
Que d'autres personnes doivent s'approcher encore du Père. Et voilà, ne pense pas, Dieu nous livre et Dieu nous livre avec nous. Faites quoi? Femme à la perte, et c'est pour toucher le bord du corps de Jésus et être prière. Ce n'est pas approcher, c'est important. Approcher dans son dossier important de faire un dossier. Le thank you.
Recueille-moi un instant. J'ai une pensée du Seigneur et depuis quelques instants, le Seigneur me dit qu'il y a une personne ici qui a connu beaucoup de violence, maltraitance, beaucoup de souffrance dans sa vie et le Seigneur se présente à elle en lui disant qu'il est amour et qu'il a la tendresse. Un mot que tu connais peut-être très peu, mais Dieu est un Dieu de tendresse. Un Dieu qui vient vers toi pour te dire qu'il t'aime et qu'il a donné sa vie afin que tu aies la vie. Mais Jésus a donné sa vie, mais il est ressuscité, il a la vie et il donne la vie. Alors aujourd'hui, si ce mot amour et tendresse, tu ne le connais pas, sache que Jésus peut te donner cet amour, cette tendresse que tu as besoin. Tu as besoin de le vivre, tu as besoin de le sentir. Et la puissance de l'Évangile, c'est cela. C'est qu'une transformation dans ta vie peut se faire. Ce soir, viens à lui. Tourne tes yeux vers ce Jésus qui peut t'apporter ce dont tu n'as jamais connu auparavant. Amen. Amen.
Par un chant, Camille. Voilà, je vais laisser la place à votre pasteur. Merci Seigneur pour ce moment passé ensemble. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit, une action qui continue. Une action qui continue. C'est pas l'action d'un moment. C'est pas juste aujourd'hui. Waouh, mes émotions ont été touchées aujourd'hui. Non, non, il y a l'action du Saint-Esprit qui vient continuer. Et qui vient faire grandir ce qui a été semé. Nous le croyons. Amen. Gloire à Dieu.
Merci Laurent. Donc pour ceux qui ont besoin de la prière d'une manière particulière, il y a toujours possibilité de parler avec un des pasteurs. Il y en a plusieurs ici. Donc le pasteur Laurent qui a porté cette parole, merveilleuse parole venant du cœur de Dieu. Il y a le pasteur Dubreuil qui est là, je suis là, et nous pouvons parler avec l'un ou l'autre qui aurait le désir, l'une ou l'autre, pardon. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au niveau des annonces, nous avons...